Nous parlons souvent de passage. Passage d'un état à un autre, d'une communauté à une autre, d'un travail à un autre. Oui, passage d'une saison à une autre, d'une politique à une autre, d'une crise à une autre. Passage, c'est la loi de la vie. Elle n'est jamais statique. Le chemin nous entraîne toujours plus loin. Alors c'est vrai, ces passages, ils peuvent être décapants, déstabilisants, insécurisants. C'est comme ça. Un jour, tout bascule et chavire, sans savoir ni pourquoi ni comment. Ou alors on sait très bien pourquoi et comment. Et bien sûr, on cherche une prise. Et rien ne tient. Rien ne tient sauf celui qui est. Lui, il nous tient dans sa main. Il ouvre nos yeux et nos oreilles. Il ouvre nos esprits et nos cœurs. Il ouvre des chemins pour nous inconnus, mais que lui connaît. Jamais nous ne ferons l'économie de ces passages douloureux, mais ils vont à la vie. Quelqu'un nous fait confiance et fait route avec nous, c'est celui qui est, qui était et qui vient. Pour aujourd'hui et pour demain, il nous donne sa grâce et sa paix. Bienvenue à chacun d'entre vous pour ce culte, que vous soyez fidèle de l'oratoire, que vous soyez simplement de passage, comme cet ami américain qui participe au culte ce matin, que vous soyez bardé de certitudes ou traversé d'interrogations, ce temps vous est donné pour vous poser et pour recevoir. Alors, je vous invite, frères et sœurs, à la prière. Prions. Dieu notre Père, prends-nous dans la richesse de ton silence. Fais taire en nous ce qui n'est pas de toi, ce qui n'est pas ta présence infiniment pure. Impose silence à nos caprices, à nos fantasmes, à nos élucubrations, à la violence de nos passions. Par ton silence, couvre la voix de nos plaintes et de nos revendications. Imprègne de ton silence nos sensibilités et nos affects. Envahis de ton silence notre prière, qu'elle ne soit maintenant que disponibilité et ouverture, pur accueil de ta parole. Fais descendre ton silence au tréfonds de nous-mêmes et qu'il remonte vers toi en chant de louange et de bénédiction. Amen. Je vous invite à vous lever pour bénir l'Éternel avec le premier spontané. Nous louons l'Éternel. Ô toi, l'au-delà de tout, n'est-ce pas là tout ce qu'on peut chanter de toi? Quel hymne te dira, quel langage? Aucun mot ne t'exprime. À quoi l'esprit s'attachera-t-il? Tu dépasses toute intelligence. Seul, tu es indicible, car tout ce qui se dit est sorti de toi. Seul, tu es inconnaissable, car tout ce qui se pense est sorti de toi. Tous les êtres, ceux qui parlent et ceux qui sont muets, te proclament. Tous les êtres, ceux qui pensent et ceux qui n'ont point de pensée, te rendent hommage. Le désir universel, l'universel gémissement tend vers toi. Tout ce qui est te prie, et vers toi tout être qui pense ton univers fait monter une hymne de silence. Tout ce qui demeure, demeure par toi subsiste l'universel mouvement. De tous les êtres, tu es la fin, tu es tout être, et tu n'en es aucun. Tu n'es pas un seul être, tu n'es pas leur seul ensemble, tu as tous les noms, et comment te nommerais-je, toi le seul qu'on ne peut nommer? Quel esprit céleste pourra pénétrer les nuées qui couvrent le ciel même? Prends pitié, toi, l'au-delà de tout, n'est-ce pas tout ce qu'on peut chanter de toi? Et nous poursuivons notre louange dans le psautier français avec le psaume 98, le psaume 98.
Thank you.
Nous écoutons la volonté de Dieu. Au prophète Michée, nous lisons « On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi. C'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Amen. Seigneur, si ton fils n'a pu être prophète en son pays, dans sa famille, auprès de ses proches, sans doute est-ce parce que nous demeurons tellement fermés sur nous-mêmes. Ma suffisance m'empêche de voir le neuf qui émerge chaque jour, m'empêche de voir la vie qui se donne à moi. Mes peurs du lendemain me replient sur hier, alors qu'il s'agit de bâtir aujourd'hui et d'accueillir ton royaume. J'ai tellement l'impression de tout connaître, d'avoir fait le tour de moi-même, des autres, de mon travail, de mes engagements, des évangiles, de ma foi. Alors, je t'en prie, Seigneur, ouvre mon cœur. Purifie-le chaque jour des certitudes d'hier pour encourager en moi l'émerveillement du jour nouveau, l'émerveillement de la rencontre avec l'autre. Oui, donne-moi la confiance en toi, que je n'oublie jamais qu'à chaque instant de ma vie, tu viens pour faire toute chose nouvelle. Amen. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la source pour la vie. Je la donnerai gratuitement. Vous qui avez soif d'une vie nouvelle, recevez-en l'assurance. Dieu fait grâce, Dieu pardonne, il fait en vous toute chose nouvelle. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter à Dieu notre reconnaissance. Nous confessons notre foi. Dieu, je le cherche sans jamais le trouver. Quand je m'adresse à lui, j'espère qu'il m'entend, mais je n'en sais rien. On m'a dit qu'il est la lumière, le pain et la vie, qu'il est l'amour, la justice et la paix. Je voudrais le croire. Mais ce sont des hommes qui m'ont dit tout cela. Comment une parole d'homme peut-elle devenir parole de Dieu ? Pourtant, je crois que les hommes de la Bible, Moïse et les prophètes, les pauvres et les sages, n'auraient jamais parlé comme ils l'ont fait s'ils n'avaient pas été inspirés par Dieu. C'est le même esprit qui anima Jésus de Nazareth et lui fit prendre conscience que Dieu était son Père. Jamais ses actes n'ont contredit ses paroles. Il est mort sans se renier. Je crois que Jésus est le Christ, l'envoyé de Dieu. Et pour moi, il est le chemin qui conduit vers le Père. Et c'est encore l'Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et qui nous donne de croire quand même, d'espérer quand même et d'aimer quand même. Je crois l'amour plus fort que la mort. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. J'ai retenu pour le culte de ce dimanche au premier livre des Rois, au chapitre 21, les versets 1 à 20. Naboth de Yisréël avait une vigne à Yisréël, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab parla ainsi à Naboth : « Donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Et à la place, je te donnerai une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Akab rentra chez lui, maussade et furibond, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Yisréël, « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Alors il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Sa femme, Jézabel, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit maussade et ne manges-tu point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Yisréël et je lui ai dit, « Donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors sa femme, Jézabel, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la royauté sur Israël ? Lève-toi, mange de bon cœur, moi je te donnerai la vigne de Naboth de Yisréël. » Elle écrivit alors au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab. Elle envoya ces lettres aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Elle écrivit les lettres en ces termes, « Proclamez un jeûne, faites asseoir Naboth à la tête du peuple, et faites asseoir en face de lui deux vauriens qui témoigneront ainsi contre lui en disant, « Tu as maudit Dieu et le roi. » Puis menez-le dehors, lapidez-le, et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait envoyé dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclamèrent un jeûne et firent asseoir Naboth à la tête du peuple. Les deux vauriens vinrent s'asseoir en face de lui, et ces vauriens portèrent ce témoignage devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Alors ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Ils envoyèrent dire à Jézabel, « Naboth a été lapidé et il est mort. » Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, « Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Israël qui a refusé de te la donner pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. » Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Israël afin d'en prendre possession. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. « Lève-toi, descends à la rencontre d'Akab, roi d'Israël, qui est à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui parleras en ces termes. Ainsi parle l'Éternel. Quoi ? Tu as commis un meurtre et tu prends possession ? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, à l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. » Et nous allons chanter le cantique 258, « Tu me veux à ton service », les strophes 1, 2 et 3, le cantique 258, je vous invite à vous lever. Notre Père, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles dans la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes. Que ton amour emporte nos volontés défaillantes ou rebelles. Que ta joie nous attende au terme des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles. Car nous le confessons, tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Cette exhortation tirée de la lettre de Jacques, elle nous rappelle à quel point le cœur de l'homme peut être partagé, déchiré, tiraillé entre des aspirations contradictoires. Et c'est encore Jacques qui écrit « Vous convoitez ». Et vous ne possédez pas. Rempli de passions jalouses, vous assassinez, vous multipliez les querelles et les conflits. Eh bien, l'histoire de la vigne de Naboth est sans doute l'une des meilleures illustrations de cette guerre cruelle qui fait se révéler et s'affronter deux hommes en moi. Cette nouvelle, ce conte, ce petit roman, met en fait en scène quatre personnages, Akab, Naboth, Jézabel et puis le prophète Élie. Akab, tout d'abord. C'est la figure du roi, un personnage choisi par l'Éternel. L'onction a fait de lui un fils de Dieu et il est maintenant investi du pouvoir. Il est à la tête d'un vaste patrimoine foncier, une résidence somptueuse à Israël et un palais hérité de son père à Samarie. Il est habité par cette passion du propriétaire terrien qui ne rêve que d'agrandir son domaine. Alors il demande à Naboth de lui céder sa vigne, mitoyenne de la résidence royale. Il pourra ainsi, nous dit la Bible, agrandir son potager. Akab néanmoins n'est pas un prédateur, il faut bien le reconnaître. Il est prêt à indemniser Naboth en conséquence, soit en lui attribuant une autre vigne ailleurs, soit en lui versant une somme d'argent en guise d'indemnité. Dans la démarche du roi, il n'y a donc rien de répréhensible. Il souhaite en quelque sorte valoriser son outil de production et la proposition faite à Naboth est honnête. Le roi est respectueux du patrimoine d'autrui. Il aurait pu confisquer la vigne, tout simplement, ou faire pression sur le petit propriétaire. Tant de rois, tant de puissants agissent ainsi. Oui. Pour l'instant, Akab agit en respectant le droit et la justice. Or, à cette offre, Naboth répond par un refus péremptoire, vigoureux, jamais. C'est le cri du cœur. Parce que Naboth, voyez-vous, c'est l'homme d'Israël dans toute sa splendeur, le petit paysan à son aise, comblé des bénédictions de Dieu, assis sous sa vigne et son figuier, pour reprendre l'expression du prophète Michée. Naboth, il jouit des fruits de la terre et d'un labeur acharné. Et son bout de vigne, il l'aime passionnément. Il y a tellement travaillé. Alors posément, il argumente son refus. Que le Seigneur met en abomination si je te cède l'héritage de mes pères. Remarquez bien qu'à ce moment-là, Naboth évoque l'Éternel et les patriarches. Là où le roi Akab parle d'une vigne, Naboth, pour sa part, parle d'un héritage. Et ce faisant, il se réfère au livre des Nombres, lorsque le Seigneur dit à Moïse au sujet des filles de Tselophad, « Tu leur donneras une propriété comme patrimoine au milieu des frères de leur père, et c'est à elles que tu leur feras passer le patrimoine de leur père. » Ce qui veut dire quoi? Que Naboth est un homme qui respecte Dieu. Il est habité par cette conviction que c'est l'Éternel qui distribue la terre aux enfants d'Israël et que la famille, elle a le devoir de préserver ce patrimoine. Ce qui motive son refus, en dernière analyse, c'est la conviction que le véritable propriétaire de la terre, c'est Dieu. Dieu lui-même, conformément à ce qui était écrit dans le livre des Lévites, la terre ne se vendra pas à titre définitif, le pays m'appartient, vous êtes chez moi des immigrés et des résidents temporaires, dit Dieu. Oui, cette terre promise et pas acquise, l'homme la reçoit, la transmet à ses enfants, mais en fin de compte, il n'en est que l'usufruitier, le fidéicommis. L'attachement de Naboth à son bout de terrain n'est donc pas d'abord de nature sentimentale. Elle exprime une fidélité théologale au don de Dieu qui confie la terre à un clan, selon ce qui est dit au livre des Nombres. Ainsi, les parts d'héritage des fils d'Israël ne passeront pas d'une tribu à l'autre. En effet, chacun des fils d'Israël restera attaché à l'héritage de la tribu de ses pères. Oui, cette terre, il l'a reçue de Dieu et il a mission de la transmettre à ses descendants dans la continuité d'une alliance conclue entre l'Éternel et son peuple. Il n'est donc pas question maintenant de s'en défaire, aussi alléchante la proposition d'Akab soit-elle. Devant ce refus, bien évidemment, le cœur du roi est alors divisé et tiraillé, comme je vous le disais en introduction. Il en perd l'appétit au point de tomber malade. Il se couche sur son lit, détourne le visage et refuse de rien manger. C'est la déprime. Oui, Akab est malade parce qu'il est en proie à la convoitise. Il est malade parce qu'il est tiraillé entre son désir de propriété et le respect de la loi de Dieu, ce Dieu qu'il a choisi pour être roi. Et la tentation d'Akab, maintenant, à cet instant précis, c'est d'oublier Dieu. Et le texte le suggère de manière particulièrement subtile. Naboth a répondu « Que le Seigneur me garde de te céder l'héritage de mes pères. » Et dans la tête d'Akab, cela devient « Je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. » Toute référence à Dieu disparaît. Et ce qui va achever de le faire basculer, c'est l'intervention de Jézabel, sa femme, qui le convainc de céder à son instinct d'accaparement. Alors bien sûr, on pourrait faire de ce texte une lecture sournoisement misogyne et présenter Jézabel comme la nouvelle Ève, la mauvaise conseillère, comme si dans ce palais royal se rejouait la scène de la convoitise originelle. Mais la pointe est sans doute ailleurs, Dieu merci. Jézabel est une princesse phénicienne. Ses ancêtres sont des Cananéens. C'est une adoratrice du dieu Baal et elle a entraîné son époux dans l'idolâtrie. Akab est allé jusqu'à construire un autel à ce dieu Baal et à se prosterner devant lui. Et à ce moment-là, on comprend que ce qui divise le cœur d'Akab, en fait, ce sont deux conceptions de la politique et de l'économie. D'un côté, il y a la conception du Dieu de la Bible. La terre appartient à Dieu, elle est destinée à tous les fils de l'Alliance pour qu'ils vivent dans la paix et dans la solidarité. Cette conception, elle fonde une société du vivre ensemble, du vivre heureux ensemble. Parce que le roi a pour fonction de faire respecter le droit et la justice. Ce n'est pas un despote. Et de l'autre côté, il y a, j'allais dire, la conception cananéenne, la conception païenne. Le roi est le propriétaire absolu de la terre. Il peut en faire ce qu'il veut, sans tenir compte de ses sujets. C'est d'ailleurs ce que Jézabel rappelle à son mari. « N'est-ce pas toi qui exerces la royauté en Israël ?» Et peut-être qu'en suivant Jézabel, le roi veut faire entrer Israël dans un monde où la terre peut s'acheter et se vendre impunément au nom de l'efficacité, de la productivité, au nom de la prospérité. Et se dessine alors un monde de la concurrence, de l'individualisme, de la performance, comme on dit aujourd'hui, où les relations elles sont soumises à la seule logique de l'intérêt et de la loi du plus fort. Et c'est bien évident qu'une politique de remembrement entraînera pour tous des gains de productivité. Mais ce que Naboth défend, lui, c'est une économie sous l'égide de Dieu, où le roi doit promouvoir des valeurs de solidarité, dans une communauté régie par un droit et où chacun a sa place au soleil. Oui, en cédant à l'objurgation de sa femme, Akab fait le choix de Baal contre le dieu des pères. Ce qui parachève la manœuvre, c'est le stratagème inventé par Jézabel et agréé par Akab pour éliminer Naboth. Ils ont recours à de faux témoins qui utilisent la loi de Dieu afin d'obtenir la condamnation de l'homme fidèle à la loi de Dieu. Oui, Naboth, l'homme qui craint Dieu, est injustement accusé d'avoir maudit Dieu et il est finalement lapidé conformément à la loi inscrite dans le Lévitique. Et cela, voyez-vous, c'est la perversité absolue. Utiliser la loi pour mieux la bafouer, tant il est vrai que si le pouvoir rend fou, le pouvoir absolu rend fou absolument. Oui, pour avoir abandonné la foi dans le Dieu vivant et vrai, Akab en est venu à transgresser le droit et la justice qu'il avait pour mission de faire respecter. L'oubli du droit en a fait un criminel, incapable de respecter les biens et la vie de l'autre. Oui, tout se tient, le respect de Dieu, le respect de la loi, le respect de la vie, le respect de l'autre. Ce qui était vrai 800 ans avant notre ère le demeure sans doute aujourd'hui, tant sur le plan individuel que communautaire. De ce récit qui n'est pas très beau, j'aimerais tirer trois leçons, au moins ouvrir trois pistes de réflexion. Une piste éthique, tout d'abord, une piste sociale, ensuite, et une piste politique, enfin. Alors, une lecture éthique, tout d'abord. Tu ne convoiteras pas. Lesdites paroles formulent un interdit fondamental. Le décalogue nous met en garde contre l'envie et la convoitise. Il y a des limites au désir humain. Oui, il y a des limites au désir humain. Il y a forcément du manque. Et la convoitise, c'est la voix intérieure qui nous pousse à refuser cette frustration engendrée par le manque. La convoitise, c'est la forme que prend le désir quand il devient incapable de consentir à la limite qui, paradoxalement, lui permet de se structurer. La convoitise, elle focalise le regard d'Akab sur la vigne de Naboth, ce bout de terrain qui lui échappe. Et tout ce qu'il possède par ailleurs perd son importance à ses yeux. Dès lors, oui, aux yeux d'Akab, Naboth devient un adversaire qui l'empêche de vivre heureux. Or, accepter le manque et la limite, ou pour reprendre le vocabulaire de la Bible, renoncer à la convoitise qui pousse à tout prendre pour soi tout seul, c'est la condition sine qua non pour faire sa place à l'autre et en retour recevoir la sienne et ainsi pouvoir vivre en paix et en sécurité ensemble. J'en viens alors à une lecture sociale. Avec cette histoire, nous sommes à la source d'une réflexion essentielle à la définition d'un christianisme social, à savoir la destination universelle des biens. Cette définition, elle est essentielle parce qu'elle articule un socle de nature théologique à des exigences éthiques concrètes qui en découlent dans l'espace social. Ce principe de la destination universelle des biens est très simple. Dieu a destiné la terre et tout ce qu'il contient à l'usage de tous les hommes, de tous les peuples, en sorte que les biens de la création doivent équitablement être répartis entre tous selon les règles de la justice. Oui, Dieu crée le monde et le remet à l'homme, à tous les hommes, pour qu'ils y trouvent ce dont ils ont besoin pour vivre en toute dignité. Et chaque fois que ce n'est pas le cas, il y a atteinte à la justice. C'est une manière de dire que la propriété privée, qui est un droit légitime, la propriété, ce n'est pas le vol, c'est une façon de dire qu'elle ne constitue néanmoins pour personne un droit inconditionnel et absolu. Personne n'est autorisé à réserver à son usage exclusif ce qui dépasse son propre besoin quand les autres manquent du nécessaire. Alors on voit quels peuvent être les points d'application d'une telle conception. Elle a justifié, par exemple, dans le passé, la mise en œuvre de réformes agraires lorsque, dans certains pays, quelques-uns accaparent la terre au détriment d'une masse de paysans pauvres. Elle a aujourd'hui, elle peut avoir aujourd'hui un impact sur les débats relatifs à la question migratoire, dont par ailleurs il faut reconnaître qu'ils sont infiniment complexes. Mais si les biens de la terre ne sont pas disponibles chez eux en quantité suffisante, les hommes ont en quelque sorte le droit d'aller les chercher ailleurs, partout, sur la surface de la terre. La légitimité des frontières étatiques n'est pas niée, mais elle est fortement relativisée. Il ne s'agit pas de récuser le droit des États à exercer leur souveraineté en matière de régulation des flux migratoires, mais le principe de la destination universelle des biens nous invite à relativiser ce droit par rapport à celui plus fondamental de tout homme d'avoir accès à des ressources vitales. Et alors on pourra dire que, afin de réduire l'incitation à la migration, il faut une répartition plus équitable des biens, ce qu'on appellera un peu pudiquement la recherche d'un nouvel ordre économique mondial. Ou dit encore d'une autre manière, tant que subsiste cette inégale répartition des biens destinés par Dieu à tous, les pays pourvus de ces biens ont le devoir d'accueillir les personnes qui viennent y chercher les ressources vitales qui manquent chez elles. C'est d'ailleurs un discours très difficile à faire entendre au peuple nanti. Et enfin, on pourrait, par analogie, appliquer cette réflexion au problème de l'écologie et de la sauvegarde de la création. Quand nous affirmons que Dieu a destiné les biens de la création à tous les hommes, il faut désormais penser à inclure dans ce collectif celles et ceux qui appartiennent aux générations à venir. On ne peut pas penser la notion d'un développement durable sans une solidarité intergénérationnelle. J'ai évoqué ces réalités que sont les États et les institutions souveraines. J'en viens enfin à une lecture politique. Faut-il en effet se résigner et penser que la justice n'est pas de ce monde et que rien ne pourra jamais endiguer l'insolente prospérité des méchants dont parle le psaume? Eh bien non, non, car Dieu suscite un prophète, Élie. Élie qui s'en ira dire au roi ces quatre vérités: tu es un assassin et tu es un voleur. Le roi d'ailleurs finira par reconsidérer ses propres actes et se repentir. Oui, le prophète Élie qui apparaît ainsi, qui surgit pour interpeller Achab, n'est pas seulement un personnage religieux, témoin du Dieu vivant. Il n'est pas seulement celui qui rappelle à temps et à contre-temps les exigences de la justice. Il est aussi celui qui, dans des circonstances très précises, dénonce ce qu'il faut bien appeler un crime d'État. En effet, c'est ce qui se passe avec Jézabel, cette figure du pouvoir qui utilise ses prérogatives pour organiser un procès truqué, mettre en scène de faux témoins et décréter à l'avance un verdict criminel. C'est bien contre cette violation du droit par les institutions de droit que se lève Élie le Tishbite, l'homme de l'autre rive, l'ancêtre de tous les indignés, de tous les insoumis, de tous les partisans, de ceux qui veulent crier la vérité de toute la force de leur révolte et de leur rébellion. Oui, ceux-là n'ont qu'une passion, celle de l'humanité qui souffre et qui néanmoins a droit au bonheur. Ces hommes-là ne sont pas des êtres partagés, ce ne sont pas des consciences malheureuses, ils sont prêts à se lever, à protester. Leur non est non, leur oui est oui. Qu'il nous en soit de même. Amen.